Chapitre 5. Dans la jungle, terrible jungle. 1. La seule chose qui évita à Jack de mourir avec le père, c'est la menace que les ignobles et les vampires ne tuent ôté. Il n'y avait pas lieu de tergiverser. Jack hurla « ôté, à moi !» avec toute la force physique qu'il put réunir, et ôté se mit à trottiner prestement sur ses talons. Jake dépassa deux ignobles hypnotisés par la tortue et s'engouffra par une porte réservée au personnel. Lui et Ote passèrent de l'éclat mat rouge-orangé du restaurant à une zone de lumière blanche et vive, imprégnée d'odeurs de cuisine âcre et de chair carbonisée. De la vapeur lui sauta au visage, chaude et humide.
« La jungle !»
plantant peut-être le décor de la scène qui allait suivre,
la terrible jungle.
Ou peut-être pas. Ses pupilles se rétrécirent et sa vision s'éclaircit. C'est alors qu'il comprit qu'il se trouvait dans les cuisines du cochon du Sud. Et ce n'était d'ailleurs pas la première fois. Un jour, peu de temps avant l'arrivée des loups à Calabrin Sturgis, Jake avait suivi Susanna, sauf qu'à ce moment-là, elle était Mia, à l'intérieur d'un rêve où elle fouillait les recoins d'une vaste cuisine désertée à la recherche de nourriture. Cette cuisine-là, sauf qu'à présent c'était la cohue. Un énorme cochon crépitait sur une broche métallique au-dessus d'un brasier gigantesque, les flammes venant lécher chaque goutte de graisse à travers la grille incrustée de croûtes de viande. De part et d'autre du feu se dressaient d'imposants fourneaux de cuivre, sur lesquels fumaient des casseroles presque aussi grandes que Jake lui-même. Une créature à peau grise était en train de touiller. Une créature tellement hideuse que Jake eut à peine la force de soutenir sa vue. Des défenses saillaient de chaque côté de sa bouche, aux lèvres grises et charnues. Ses joues, orné de fanons, pendait en un amas de chair flasque, recouvert de verrues. Pour couronner cette vision de cauchemar, la chose portait un tablier de cuisine blanc, souillé d'éclaboussures diverses, et une toque rappelant un gros pop-corn gonflé d'air. Au-delà de cette apparition, quasiment engloutie par la vapeur, deux autres créatures vêtues de blanc faisaient la vaisselle côte à côte dans un évier double. Toutes deux portaient des langes autour du cou. L'une d'elles était un humain, un garçon d'environ 17 ans. L'autre ressemblait à une sorte de chat de gouttière, monstrueux, avec des jambes.
« Vai, vai, los motros ados, trecanits en funs !»
brailla le chef en toc à l'intention des deux grouillots. Il n'avait pas repéré Jake. En revanche, l'une des créatures, le chat, l'aperçut. Il aplatit les oreilles en arrière et se mit à cracher. Sans même y réfléchir, Jake lança l'orisa qu'il tenait dans la main droite. Le plat s'envola en chantant dans l'air vaporeux et trancha net le cou du chat aussi suavement qu'un couteau dans du beurre. La tête bascula dans l'évier avec un bruit d'éclaboussure savonneuse, après avoir jeté un dernier regard vert étincelant.
« Sanfai candilos !»
s'écria le chef. Ou bien il n'avait pas pris conscience de ce qui s'était produit, ou bien il n'en comprenait pas le sens. Il se tourna vers Jake. En dessous de son front tombant et grumeleux apparaissait une paire d'yeux bleu-gris chassieux, les yeux d'un être doué de sensibilité. En le voyant de front, Jake comprit de quoi il s'agissait. D'une sorte de facochère intelligent et bizarre. Ce qui signifiait qu'il était en train de faire cuire ses semblables, ce qui, au cochon du Sud, ne détonnait pas franchement.
« Canfoado sentefa, chisopan vai !» lança-t-il à Jake.
Puis, pour parfaire la démence totale de la situation, il ajouta
« Et si vous ne frottez pas correctement, pas la peine de commencer !»
L'autre marmiton, celui à figure humaine, gesticulait visiblement pour le mettre en garde, mais le chef n'y prêta aucune attention. Il semblait penser que Jake, puisqu'il avait tué une de ses aides, allait maintenant prendre le relais et assumer la tâche du chat mort. Jake lança l'autre plat, qui vint zébrer le cou du phacochère, le coupant net au milieu de son laïus. 3 ou 4 litres de sang jaillirent instantanément sur le fourneau situé à droite de la bête, puis se mirent à noircir et à crépiter dans une ignoble odeur de grillé. La tête du phacochère s'inclina sur la gauche, puis bascula en arrière, sans se détacher complètement. La chose, qui mesurait bien 2 mètres, fit 3 pas vers la gauche en chancelant et s'affala en étreignant le cochon embroché. La tête se détacha un peu plus et s'affaissa sur l'épaule droite du phacochef. Un de ses yeux se mit à fixer les plafonniers fluorescents nimbés de vapeur. La chaleur scella les mains du cuisinier sur la chair cuite et elles commencèrent à fondre. Puis la chose trébucha vers l'avant dans les flammes vives et sa tunique prit feu. Jake fit volte-face juste à temps pour apercevoir le marmiton qui fondait sur lui, armé d'un couteau de boucher dans une main et d'un couperet dans l'autre. Jake se saisit d'un rizza dans son sac mais retint son geste, malgré la voix intérieure qui lui claironnait d'y aller, de foncer sans attendre, de tailler à ce salopard ce que Margaret Eisenhart appelait autrefois une coupe sombre. Cette expression avait déclenché l'hilarité chez les autres sœurs du plat. Pourtant, malgré son irrésistible envie de lancer, il retint son bras. Ce qu'il vit, c'est un jeune garçon au teint gris et cireux, presque jaunâtre sous la lumière criarde des cuisines. Il avait l'air à la fois terrifié et mal nourri. Jake leva le plat en guise de sommation et le jeune garçon s'immobilisa. Ce n'était pas le rizza qu'il fixait, mais ôté, planté aux pieds de Jake. La fourrure du bafouilleux était hérissée sur son dos, lui donnant l'air 2 fois plus volumineux, et il montrait les dents.
« Est-ce que tu... »
commença Jake, mais alors la porte du restaurant s'ouvrit à la volée. L'un des ignobles entra en trombe. Sans l'ombre d'une hésitation, Jake lança le plat. Il gémit dans l'air blanc et embué et alla décapiter l'intrus avec une précision sanglante, lui tranchant la gorge juste au-dessus de la pomme d'Adam. Le corps sans tête pencha à gauche, puis à droite, comme un artiste sur scène saluant son public en une pirouette comique. Puis il s'effondra. Jake s'était immédiatement armé d'un plat dans chaque main et avait croisé les bras sur la poitrine, dans la posture que Cy Eisenhart appelait « la charge ». Il jeta un regard au jeune garçon, qui brandissait toujours son couteau et son couperet. « Pas très convaincant néanmoins », remarqua Jake. Il tenta de nouveau de lui parler.
« Est-ce que tu parles français ?»«
Oui, là »,
fit le marmiton. Il lâcha le fendoir de manière à pouvoir lever la main, ou plus exactement son pouce et son index rougi par l'eau de vaisselle. Il les tint écartés de quelques centimètres.
« Mais juste un petit peu. J'ai commencé en arrivant ici. »
Il ouvrit l'autre main et le couteau alla rejoindre le fendoir sur le sol carrelé de la cuisine.
« Tu viens de l'entre-deux-mondes ? »
demanda Jake.
« Oui, pas vrai ?»
Il n'avait pas l'impression de se trouver en face d'un foudre d'intelligence.
« Pas un petit crack !»
aurait raillé Elmer Chambers. Mais il était au moins assez malin pour avoir le mal du pays. Malgré la terreur qui l'envahissait, Jake perçut comme une lueur dans le regard du garçon.
« Oui, là, je viens de l'autre fake, moi. »«
Près de la cité de l'aide ?»«
Au nord, que ça te plaise ou que ça te plaise pas. Tu vas me tuer, Koucha ? J'ai pas envie de mourir, même si je suis bien triste. » « Je ne te tuerai pas si tu me dis la vérité. Est-ce qu'une femme est passée par ici ?»
Le garçon hésita.
« Si fait, essayerai sa carte personnelle l'ont emmenée. Elle était toute confuse, celle-là. Sa tête, elle allait dans tous les sens. »
Il joignit le mime à la parole, ce qui lui donna plus que jamais l'air de l'idiot du village. Jake repensa à Chimmy dans le récit que Roland leur avait fait de ses aventures à Mérys.
Mais elle était vivante.
Oui,
je l'ai entendue respirer, moi.
Jake vérifia d'un regard que personne n'arrivait par la porte. Pas encore. Il fallait partir pourtant.
Comment t'appelles-tu, Louchon?
Joshapim, c'est mon nom, fils d'Ossa.
Eh bien, écoute-moi attentivement, Joshapim. Au-delà de cette cuisine, il y a un monde du nom de New York, où les ados comme toi sont libres. Je te suggère de sortir de là tant que tu le peux.
Il me ramènerait et il me tonnerait le fouet.
Non, tu ne comprends pas, c'est très grand. Comme Lud, quand Lud était encore...
Il contempla le visage impavide de Joshapim et pensa...
Non, c'est moi qui ne comprends pas. Et si je reste là à essayer de convaincre ce gars de déserter, je ne récolterai que ce que je...
La porte vers le restaurant s'ouvrit de nouveau violemment. Cette fois-ci, deux ignobles tentèrent de la franchir en même temps et se retrouvèrent coincés une seconde, épaule contre épaule. Jake lança ses deux plats et les regarda se croiser dans les volutes de vapeur. Les deux nouveaux venus furent décapités au moment même où ils bondissaient dans la pièce. Ils s'affalèrent vers l'arrière et la porte se referma une nouvelle fois. À l'école Piper, Jake avait eu un cours sur la bataille de Thermopyles lorsque les Grecs avaient piégé les soldats de l'armée persane 10 fois plus nombreux qu'eux. Les Grecs avaient entraîné leurs ennemis dans un étroit défilé. Lui avait la porte de cette cuisine. Tant qu'ils débarquaient un par un ou deux par deux, et ils y étaient forcés, sauf s'ils se trouvaient le moyen de le déborder par le côté, il pouvait les cueillir sans peine. Du moins jusqu'à ce qu'ils se retrouvent à court d'Oritza.
Des fusils ?
Demanda-t-il à Joshapim.
Est-ce qu'il y a des fusils ici ?
Joshapim fit non de la tête, mais compte tenu du regard exaspérant et chargé d'intensité du jeune homme, il était difficile de savoir s'il signifiait « il n'y a pas de fusil ici » ou « je n'intuite pas ».
« D'accord, j'y vais », finit par dire Jake. « Et si tu n'en fais pas autant avant que ce soit trop tard, Joshapim, c'est que tu es encore plus stupide que tu en as l'air. Ce qui n'est pas peu dire. » Il y a des jeux vidéo là-bas, mon pote. Réfléchis-y.
Joshapim persista avec son regard dû, et Jake décida d'abandonner. Il s'apprêtait à appeler Othé quand il entendit une voix s'adresser à lui depuis l'embrasure de la porte. Hey, gamin ! Une voix de dur, de conspirateur, de type qui sait. La voix d'un homme qui vous descendrait pour 5 billets ou coucherait avec votre copine à tout moment, se dit Jake. Ton ami le paternel est mort. En fait, à force de résister, le paternel a fini en plat de résistance. Si tu sors maintenant en arrêtant la comédie, tu as des chances d'éviter de servir de dessert.
Retournez-la et enfoncez-vous-la dans le cul pour voir.
Cette dernière réplique sembla même traverser le mur de débilité de Joshapim, car il prit un air choqué. « Je te donne une dernière chance, » fit la voix dure et avisée. « Sors de là !»«
Entrez plus tôt, vous !» contra Jake. « J'ai plein de plats !»
Et il ressentit effectivement la pulsion insensée de se jeter en avant, de franchir cette porte comme une balle et d'aller livrer bataille à ces ignobles dans la salle de restaurant de l'autre côté. Et d'ailleurs l'idée n'était pas si folle que ça, comme Roland n'aurait pas manqué de le dire. C'est la dernière chose à laquelle il se serait attendu, et Jake avait même une chance de réussir à les faire paniquer avec une demi-douzaine de plats lancés à grande vitesse et à les mettre en déroute. Le problème, c'était les monstres en train de se repaître derrière la tapisserie. Les vampires. Eux ne paniqueraient pas, Jake le savait. Il avait dans l'idée que si les aïeux avaient pu venir dans la cuisine... Mais peut-être était-ce seulement le manque d'intérêt qui les retenait dans la salle à manger, ça, et les derniers lambeaux du cadavre du père. Ils seraient déjà morts. Et Joshapim aussi, probablement. Il mit un genou à terre et murmura
« Othé, trouve Susanna.
en accompagnant son ordre d'une image mentale rapide. Le bafouilleux adressa un dernier regard dubitatif dans sa direction, puis se mit à renifler le sol. Les dalles récemment lessivées étaient encore humides, et Jake craignait que le bafouilleux ne réussisse pas à trouver l'odeur. Puis Otey lâcha un seul cri bref, qui tenait plus de l'aboiement canin que du cri humain, et se précipita vers le milieu de la cuisine, entre les fourneaux et les plans de travail, la truffe collée au sol, ne s'écartant de sa trajectoire que pour contourner rapidement le cadavre fumant de Fakoshev.
« Écoute-moi, espèce de petit bâtard !» cria l'ignoble de l'autre côté de la porte. « Je suis en train de perdre patience !»
« Très bien !» s'exclama Jake. « Viens-y donc, histoire qu'on voit si tu sauras ressortir !»
Il porta les doigts à ses lèvres, faisant signe à Joshabim de se taire. Il s'apprêtait à faire volte-face et à détaler. Il ne savait absolument pas combien de temps il lui restait avant que le jeune domestique se mette à hurler que le gamin et son bafouilleux ne tenaient plus le col des Thermopyles. Quand Joshabim s'adressa à lui à voix basse, dans un souffle.
Quoi ?
Demanda Jake en lui lançant un regard incertain. À l'oreille, il avait entendu le gamin murmurer
« Attention à l'esprison ».
Mais ça ne voulait rien dire, pas vrai ?
Attention à l'esprison,
répéta Joshabim beaucoup plus clairement cette fois-ci, avant de retourner à ses casseroles et à son eau savonneuse.
« Quelle esprison ? »
demanda-t-il, mais Joshabim fit mine de ne pas l'avoir entendu, et Jake n'avait pas le temps de le mettre à la question. Il courut pour rattraper Otey en jetant des regards par-dessus son épaule. Si deux ou trois ignobles décidaient de bondir dans la pièce, Jake aimait autant être le premier à le savoir. Mais personne ne vint. Du moins, pas avant qu'il ait suivi Otey hors de la pièce pour se retrouver dans la réserve du restaurant, une salle remplie jusqu'au plafond de carton et sentant le café et les épices. Elle rappelait la réserve de l'épicerie générale d'Eastonham, mais en plus propre.